Bonjour à tous. Il y a 14 ans, la France se fixait comme objectif de réduire l'usage des pesticides de moitié. 800 millions d'euros ont été débloqués. Sauf qu'au final, on en consomme encore plus. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer donc pourquoi et surtout ce qu'on a fait de tout cet argent. Et puis nous recevrons Fabrice Sarfi de Mediapart. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, nous ferons le point sur ce qu'on appelle l'affaire LVMH pour espionner François Ruffin notamment. Alors qu'il n'était pas encore député, le groupe de luxe aurait eu recours à d'ex-grands flics et un ancien magistrat.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Il est grand temps de prendre au sérieux l'usage croissant de produits pesticides. Je demande à Michel Barnier de proposer avant un an un plan pour réduire de 50% l'usage des pesticides dont la dangerosité est connue, dont nos agriculteurs sont les premières victimes.
Voilà, celui qu'on vient d'entendre, c'est Nicolas Sarkozy, vous l'avez reconnu, qui conclut le Grenelle de l'environnement. On est en octobre 2007, il annonce que la France s'est fixée comme objectif de réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans. 800 millions d'euros, c'est énorme, vont être investis dans un programme qu'on a baptisé Ecophyto. Mais le résultat, eh bien, c'est que cet usage des pesticides, il a en fait augmenté de près de 15%. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, avec vous, Anne-Laure Barral, mais d'abord, ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut constater, c'est que dès le début, en fait, cette affaire s'était assez mal emmanchée.
Oui, et pour le comprendre, il faut remonter 12 ans en arrière, lors d'une réunion au ministère de l'Environnement. 80 personnes sont autour de la table et Jean-Louis Borloo annonce un peu par surprise cet objectif de réduction des pesticides, d'où l'étonnement des syndicats agricoles comme la FNSEA et des chambres d'agriculture. François Veyrette, porte-parole de Génération Future, se souvient très bien de la façon dont le sujet a été mis sur la table.
Jean-Louis Borloo, le ministre à l'époque, dit bon, hop, aborde très rapidement le sujet de la réduction des pesticides. Bon, on est d'accord sur un objectif de réduction de 50% en 10 ans. Enfin, il emballe le truc assez rapidement. Il ne se passe pas grand-chose autour de la table, pas d'opposition farouche, enfin, les gens se regardent, etc. Et ça passe. Et on sort faire des déclarations à la presse sur les marches de l'hôtel de Roquelaure. Et on rentre après dans la salle. Et là, la louche, une heure après, ça commence un peu à s'énerver de l'autre côté de la table, du côté de la FNSEA ou des chambres d'agriculture. Et là, ils essaient de revenir sur ce qui avait été décidé et ils obtiennent finalement l'ajout à si possible à la fin.
Oui, un si possible dans le texte. Autrement dit, on ne veut pas que cet objectif de réduction de moitié des pesticides soit contraignant.
C'est ça. Et on va même faire en sorte d'avoir du mal à mesurer cet objectif. Et oui, c'est la meilleure méthode. Hein. Pour ne pas voir qu'on a la fièvre, on va fausser le thermomètre. Dès le début, s'engage donc une négociation tendue pour choisir l'indicateur qui servira à jauger si l'usage des pesticides augmente ou baisse.
Et donc ?
Eh bien, le ministère finit par choisir un nombre de doses sur une surface donnée pour avoir une moyenne, en fait, des traitements utilisés par hectare. Et ça, ça déplaît à Hervé Lapi, le secrétaire général adjoint de la FNSEA.
On l'a dit dès le départ. On a dit que les indicateurs choisis n'étaient pas les bons. Donc voilà, c'est sûr que maintenant, presque plus de 10 ans après, on est toujours sur le même sujet. Est-ce que c'est le bon indicateur ? Je pense que 12 ans après, on va regretter de ne pas nous avoir écoutés. Et je pense qu'on avait plutôt la bonne solution en choisissant un indicateur qui soit pertinent.
Mais c'est quoi le problème avec cet indicateur ?
Eh bien, le problème, c'est qu'il montre clairement, comme on l'a dit, hein, qu'entre 2009 et 2019, l'usage des pesticides n'a pas baissé et qu'il a au contraire augmenté de 15%.
Mais ça veut dire qu'on a gaspillé 800 millions d'euros ?
Eh bien, la question se pose, hein, parce que dès 2014, un député socialiste de la Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier, tire la sonnette d'alarme. Il dirige alors une mission parlementaire et il constate que déjà 361 millions d'euros ont été dépensés dans ce plan Ecophyto, ce qu'il découvre le stupéfie.
C'est d'une incurie. Il y a une telle dispersion des forces. Il y a tellement de donneurs d'ordre en matière sur ce plan Ecophyto. On a deux ministères qui sont à la manœuvre. À l'intérieur des ministères, vous avez des départements pas toujours très bien coordonnés et parfois en compétition sur ces sujets. Et puis, vous avez les agences de l'eau qui, elles-mêmes, ont leur propre logique. Or, tout est lié, bien évidemment.
Ouais, donc un rapport parlementaire tire la sonnette d'alarme dès 2014. Et puis un peu plus tard, Anne-Laure, en 2019, la Cour des comptes finalement ne dit pas autre chose.
Oui, dans un référé de novembre 2019, elle enfonce le clou. On est plutôt autour de 4 milliards dépensés en 10 ans que sur 800 millions.
Ouais, 4 milliards, ce qui est énorme. Et comment donc on en arrive à un tel chiffre ?
Eh bien, la Cour cumule toutes les aides qui ont été débloquées pour réduire les pesticides. Et selon ses calculs, ce sont en fait 400 millions d'euros qu'on aurait dépensés en fonds publics pour une seule année. Faites le calcul, bien sûr, 10 ans, vous arrivez à 4 milliards.
Ouais, c'est énorme, comme je le disais. Mais alors, il est passé où, cet argent ?
Alors, pour le comprendre, il faut regarder les choses point par point. D'abord, on a parfois financé des études qui doublonnaient. L'Université de Strasbourg, par exemple, a obtenu plus de 200 000 euros pour mesurer la dispersion des pesticides près des zones de culture, mais on a aussi lancé une étude sur le même sujet, appelée elle Pestirive, et pour Claudine Joly de France Nature Environnement, jusqu'ici, ça n'a servi à rien.
Le problème de Pestirive, c'est que une fois qu'on aura bien mesuré tous les pesticides auxquels les gens sont exposés, qu'est-ce qu'on va faire de cette étude ? Étudier le risque lié à certains pesticides, vaut mieux en utiliser d'autres, etc. C'est un fond sans fin. Ce qu'il faut, c'est absolument travailler sur réduire l'usage, y réduire, voire même se passer de l'usage des phytos. Donc c'est là-dessus qu'il faut orienter tous les sous et toute la recherche et tous les travaux, c'est vraiment changer fondamentalement les pratiques.
On entend bien, Anne-Laure, mais si on regarde en quoi les pesticides peuvent nuire à la santé, c'est ce qui était l'objet de l'étude, et en quoi ça peut nuire à l'environnement, on va quand même sensibiliser à ces dangers, donc on va quelque part faire avancer les choses, non ?
C'est vrai, mais ce plan avait aussi vocation à donner des solutions pour réduire les pesticides, et pas à redire tout le temps pourquoi il faut le faire.
Oui, mais cet argent, il n'a pas servi qu'à ses recherches.
Oui, mais une partie de ces financements a aussi été détournée pour financer des recherches qui ne sont pas liées à la réduction des pesticides. Écoutez Laurence Guichard, ex-ingénieure agronome à l'INRA et auteure d'un article sur l'échec du plan Ecophyto. Elle reconnaît que les chercheurs de l'INRA, du CIRAD, du CNRS et d'autres instituts ont utilisé ce plan un peu comme une vache à lait.
Il a été pensé dans une vraie logique de guichet, avec la possibilité pour les uns de récupérer, entre guillemets, de l'argent pour financer des postes, pour financer enfin, des activités. Et de la part de ceux qui donnaient l'argent, les pouvoirs publics notamment, une logique de distribution d'argent sans réel souci de résultat. Il y a des fois, une fois qu'on a déposé un projet, qu'on a récupéré le financement, eh ben on fait ce qu'on avait eu envie de faire, même si on a maquillé la mariée quand on a déposé le projet, quoi. Et donc, il y a beaucoup de financement dans la recherche aussi, qui financent des programmes qui ne sont pas forcément directement utiles, par exemple à Ecophyto et à la conception de systèmes moins dépendants, quoi.
Et personne ne s'est ému de ce détournement de subventions, en quelque sorte ?
Si, en 2014, la mission parlementaire de Dominique Potier, et puis en 2019, la Cour des comptes. Mais chaque gouvernement a repris le plan sans beaucoup le changer.
Ouais, et du coup, certains acteurs ont continué de se servir.
Oui, et les principaux bénéficiaires de ce plan, ce sont les organismes agricoles. Et pourtant, on l'a vu, hein, ils étaient les moins partants pour réduire les pesticides de moitié. C'est le cas notamment des chambres d'agriculture, qui ont organisé une surveillance des cultures pour près de 10 millions d'euros par an.
Une surveillance des cultures, c'est-à-dire ?
L'idée, c'est de surveiller pour ne traiter qu'en cas de nécessité, pour voir si des maladies ou des insectes se développent dans les champs. Sauf que plus vous détectez, plus vous alertez et plus vous encouragez les agriculteurs à traiter.
Ah oui, donc on aurait obtenu le résultat inverse de celui qu'on recherchait ?
C'est en tout cas ce qu'a constaté Jean-Marc Ménard, directeur de recherche à l'INRA et qui a travaillé à l'évaluation de ce plan.
Un agriculteur qui lit une alerte du bulletin de santé du végétal du genre « on a vu tel insecte à l'autre bout du département, faites attention », ben, y a des agriculteurs qui vont dire « moi je vais aller voir dans mon champ si c'est pas arrivé ». Et effectivement là, on peut avoir un gain par rapport à un traitement systématique qui serait fait. Mais il y en a d'autres qui disent « ben, attention, il y en a à l'autre bout du département, ça va arriver chez moi, je traite ». Il y a aussi une certaine intentionnalité de la part de certains acteurs. Hein. Selon la manière dont vous donnez une information, si vous dites « on a vu des insectes à tel endroit, intervenez », il y en a qui vont comprendre « intervenez avec le pulvérisateur ».
Ah oui, donc de fait, on aurait poussé à la consommation.
Eh bien oui, d'autant plus que des fabricants de pesticides se servent de ces alertes pour contacter directement les agriculteurs et les inciter à utiliser leurs produits, comme l'explique encore Laurence Guichard, qui est aujourd'hui agricultrice dans la Vienne.
Je reçois par mail des messages de BASF, je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse, pour me dire que c'est le désherbage d'automne, il va falloir traiter, c'est un traitement fongicide de semences sur orge. Il y a un autre mail qui me dit « attention, il est urgent de traiter pour garder le même rendement, voire produire plus avec tel fongicide ». Enfin, j'ai reçu ces mails-là et j'ai reçu, il y a 3 semaines de ça, un SMS là, du coup, de Syngenta. Et là, c'était un SMS plutôt système alerte où les pucerons sont là, quoi.
Ouais, les pucerons sont là, donc traitons avec les pesticides.
Oui, et le paradoxe, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que certaines régions qui ont reçu les plus grosses enveloppes pour surveiller leurs parcelles n'ont pas forcément eu de bons résultats. La région Occitanie, par exemple, a légèrement augmenté ses achats de pesticides et la Corse, qui a reçu près de 200 000 euros par an, a vu ses achats augmenter de 27% en 5 ans.
Bon, mais quand on a vu ça, on n'a pas arrêté les frais ?
Alors si, en 2019, le gouvernement a réduit un peu le robinet à subvention. Il faut dire que cette année-là, vous avez la Cour des comptes, on l'a vu, qui dit halte au gaspillage, mais aussi un rapport d'une mission interministérielle qui dénonce le manque de contrôle du gouvernement, comme on l'entend dans cet extrait que nous avons fait lire.
La coordination est insuffisante au sein de la Direction générale de l'alimentation. Les tableaux de répartition des subventions sont renseignés de manière hétérogène, ce qui rend peu fiable une consolidation nationale. Cette situation n'est pas satisfaisante, notamment pour disposer d'éléments de comparaison sur les pratiques et les coûts dans différentes régions.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que beaucoup d'argent a été englouti dans des études inefficaces ou dans des centres de surveillance qui, en fait, ont fait grimper la consommation de pesticides, Anne-Laure Barral. Mais j'imagine que de l'argent, il en est aussi passé ailleurs.
Oui, il y a aussi une grosse enveloppe de 13,5 millions d'euros par an qui a servi à financer des mi-temps d'animateurs, d'ingénieurs pour fédérer un réseau de fermes dites exemplaires. On les a appelées défis parce que ces 3000 fermes chapeautées par les chambres d'agriculture devaient relever le défi de montrer aux autres comment elles avaient réussi à réduire leur consommation de pesticides. Mais cette belle idée a vite fait flop parce qu'on a confié l'accompagnement de ce projet à beaucoup de jeunes inexpérimentés. C'est du moins ce qu'a constaté Bertrand Aumont, conseiller à la Chambre d'agriculture de Normandie.
On a choisi essentiellement des gens en tout début de carrière, en premier poste. Le turnover dans des filles a été énorme. Combiné avec le fait qu'il y avait quand même beaucoup de groupes où la motivation des agriculteurs n'était pas si forte que ça, mais bien sûr que ça a été une difficulté majeure pour beaucoup d'agents. Ces personnes-là étaient à ce moment-là en difficulté en disant « mais je suis en train de me rendre compte, j'ai des individus qui n'en ont pas vraiment envie et par ailleurs, ma hiérarchie ne m'y incite pas ».
Mais ça veut dire qu'on avait des jeunes ingénieurs inexpérimentés qui accompagnaient des agriculteurs qui eux-mêmes n'en avaient pas vraiment envie.
C'est ça. Et les dirigeants des chambres d'agriculture eux-mêmes n'étaient pas toujours convaincus de l'intérêt du projet. Résultat, c'est qu'au bout de 10 ans, la baisse de l'usage des pesticides n'est toujours pas une priorité, selon une conseillère indépendante du Grand Ouest qui a préféré rester anonyme.
J'ai assisté à une réunion dernièrement où un agriculteur a dit à l'animatrice du réseau « Vous ne nous dites pas comment faire pour baisser les pesticides ». Elle lui a répondu que c'était à eux de le faire. Ce n'est ni plus ni moins que de la com, et on a financé de la com. Parce que les agriculteurs, ils entendent une grande messe et après, derrière, le conseiller commercial de la coopérative ou du négoce passe et en fin de compte, rien ne change. Les seuls gagnants là-dedans, ce sont les chambres d'agriculture qui ont touché les subventions.
Mais il y en a quand même bien quelques-uns qui ont joué le jeu, non ?
Oui, certains agriculteurs ont vraiment réussi à baisser leurs usages de pesticides, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'ont pas servi d'exemple aux autres. C'est même le contraire si l'on en croit Bertrand Aumont, qui est conseiller à la Chambre d'agriculture de Normandie.
Il est très mal perçu que je puisse dire partout, y compris dans ce micro, qu'on puisse changer. On a servi avec ce groupe régulièrement a montré qu'il était possible d'atteindre les 50%, et en même temps, il est bienvenu qu'on le dise pas sur tous les toits. Il aurait mieux valu de dire qu'il y avait des fermes, et c'était pas stigmatisant, ou des groupes, qui en gros n'avaient rien à faire là-dedans. Eh ben, il a été dit et assumé que ce groupe-là était là pour montrer qu'on baisserait pas de plus de 20%.
Donc on aurait sciemment intégré dans ce groupe de 3000 fermes des agriculteurs qui ne voulaient pas jouer le jeu ?
C'est ça.
Et du côté des responsables agricoles, on le confirme ça ?
Eh bien écoutez, Hervé Lapy, le secrétaire général adjoint de la FNSEA, vous allez le voir, lui reconnaît en tout cas que globalement, ce réseau n'a pas fonctionné.
On a peut-être manqué collectivement d'une vraie ambition une fois qu'on avait nos 3000 fermes et qu'avaient rendu leurs résultats, qui certains étaient très efficaces, de le faire savoir et de le dupliquer, de le proposer aux fermes qui étaient autour de ces 3000 fermes. Je crois qu'il y a eu un sujet, peut-être qu'on n'a pas mis les moyens assez sur l'animation et sur le déploiement de ces bonnes initiatives, de le faire savoir et d'accompagner un nouveau mouvement qui allait prendre de l'ampleur.
Ouais, donc pour lui, le problème, c'est qu'on n'aurait pas assez communiqué. Maintenant, ce qu'on peut aussi remarquer, Anne-Laure, c'est qu'une partie de l'argent de ce plan, il a été carrément détourné par certaines chambres d'agriculture.
Eh bien oui, parce que les budgets des chambres ont considérablement augmenté grâce à des subventions comme celle-ci. Avec cet argent, les responsables de 5 chambres d'agriculture départementales ont financé des syndicats agricoles, ce qui est interdit. Dans le Finistère, on a même acheté pour 40 000 euros de places de match de foot et on s'est payé 80 000 euros de voyage d'études en Afrique du Sud pour les élus, mais aussi pour leurs conjoints.
Ouais, ce qui évidemment n'aurait pas dû se faire. Et puis, il y a d'autres choix qui posent question dans ce plan.
Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, des acteurs privés comme des coopératives, des négociants qui vendent des pesticides ont eux aussi bénéficié de l'argent du programme Ecophyto. Écoutez Xavier Rebout, chercheur à l'INRA et président du comité stratégique recherche et innovation. C'est lui qui choisit une partie des projets financés par ce plan.
Il y a beaucoup d'acteurs privés qui en fait sont venus participer à un certain nombre de projets, donc M2i, InVivo AgroSolutions, Coopert, Bioline AgroScience et ainsi de suite, quoi. Et après, je ne considère pas ça anormal finalement que les sous du contribuable servent à pousser des développements industriels dans des directions qui nous intéressent.
Oui, donc lui se dit que si on paye des producteurs de pesticides pour travailler sur des solutions alternatives, bah finalement ça peut être intéressant. Non ?
Oui, on peut effectivement penser cela. Hein. La coopérative InVivo, par exemple, a reçu en 2012 près de 300 000 euros pour tester des produits anti-limaces, dits de biocontrôle, plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Et pour Claudine Joly, de France Nature Environnement, c'est vrai que ça paraissait plutôt intéressant au départ.
N'importe quel acteur peut avoir des bons mouvements. Et donc, et au contraire, à la limite, si c'est un acteur qui d'habitude n'est pas investi dans ce type de démarche, si tout à coup il manifeste une envie de faire quelque chose dans ce sens-là, ben, bienvenue. Après, il faut effectivement que derrière, surtout avant une reconduction de financement, il y a un bilan sur la première action. En principe, normalement, il y a des indicateurs, il y a un bilan à fournir, etc.
Et alors, ce bilan pour InVivo, il a été positif ?
Eh bien, on peut se poser la question, hein, parce qu'InVivo était subventionné par ce programme, mais dans le même temps, le groupe a racheté 3 grandes sociétés étrangères qui distribuent des pesticides.
Ouais, donc d'un côté, on dit vouloir développer le bio, et puis de l'autre, on investit dans des produits chimiques. Mais alors là, je vous repose la question, Anne-Laure, pourquoi on a laissé faire ça ?
Parce que les résistances ont été vives, hein, et on le voit très bien. En 2015, Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, a bien tenté de mettre en place un système de pénalités pour les entreprises qui ne vendaient que des pesticides. C'est ce qu'on a appelé le plan Ecophyto 2. Sauf que, comme le raconte le député socialiste Dominique Potier, ben, ce plan a purement et simplement été sabordé.
Ecophyto est planté entre 2015 et 2017, on peut le dire, par un travail de sape organisé. On entre dans la période présidentielle, donc il n'est pas mis en œuvre. Dites-moi ce qui a été mis en œuvre du plan Ecophyto 2. Rien ou presque rien. On continue comme avant. Alors, on fait de l'inter-interministériel. On rajoute le ministère de la Santé. On rajoute l'enseignement et la recherche. On fait de grandes déclarations. Et puis après, combien de réunions du conseil de surveillance ? Quand on arrive, il ne se réunit plus, il ne travaille pas. Il n'y a pas qui pilote ? Pour quel résultat ?
Et donc on constate que ça ne marche pas, et pourtant on n'arrête pas la machine à cash.
Effectivement, et le système de pénalité a finalement été retoqué par le Conseil d'État, donc on continue à verser les subventions.
Ah, et puis vous avez relevé, il faut le dire aussi, une autre bizarrerie dont on n'a pas parlé.
Oui, on a remarqué qu'au début du plan, des acteurs comme l'Institut français du textile ont obtenu des enveloppes de dizaines de milliers d'euros pour des projets concernant l'amélioration des équipements de protection. Or, se protéger, eh bien, c'est ce qu'on fait quand on épand des pesticides.
Ouais, donc on ne voit pas trop en quoi ça permet de les réduire.
Non, et ce n'est pas tout. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte aussi qu'encore en 2018, la FNSEA a reçu 200 000 euros pour l'organisation d'un jeu concours sur Internet qui portait aussi sur les équipements de protection.
Ouais, donc là aussi, on ne voit pas trop en quoi ça pourrait changer les choses.
Oui, alors il y en a quand même qui demandent à ce qu'on mette fin à ce gaspillage. Hein. Mmh. C'est le cas de certains administrateurs de l'Office français de la biodiversité. Il faut savoir que c'est en partie sur son budget qu'est prélevé l'argent du plan. Depuis 2 ans, Rémi Arcenteau, qui est administrateur de l'Office pour le syndicat SNE-FSU, vote ainsi contre ces prélèvements.
C'est pas possible de consacrer autant d'argent et de pas atteindre les objectifs. Ça dure depuis des années, Ecophyto, Ecophyto 2, Ecophyto 2+, le rapport de la Cour des comptes qui dit que ça n'atteint pas ses objectifs. Et nous, administrateurs de l'AFB ou FB, on est toujours à voter des sommes en millions d'euros, hein, cumulées par an, et aucun résultat. Donc, quand on met tout ça bout à bout, l'argument, c'est de dire, mais nous, on arrête de voter ces projets-là. On se dit qu'à un moment, c'est un peu gaspiller de l'argent public, quoi.
Ouais, donc lui vote contre le plan, mais ça ne sert à rien en fait.
Non, parce que les opposants sont minoritaires dans ce conseil d'administration, donc les subventions passent quand même. Et puis en fait, personne ne veut renoncer à l'objectif affiché, en tout cas, de réduire les pesticides.
Mais c'est pas vraiment le sujet, ça. Tout le monde est d'accord là-dessus, Anne-Laure. Le vrai problème, c'est de savoir en fait comment les réduire, justement. Et en attendant, on continue de donner de l'argent qui apparemment ne sert à rien.
Eh bien oui, parce que c'est compliqué pour des politiques de s'opposer aux responsables agricoles, surtout quand il y a des élections régulièrement. C'est en tout cas comme ça que l'analyse Claudine Joly de France Nature Environnement, qui observe les péripéties de ce plan depuis le début.
Si un politique veut être réélu dans 5 ans, est-ce qu'il peut se permettre de dire ça va pas du tout, cette façon de faire, ça va pas du tout, donc moi je veux que ça change et que ça change clairement, donc je fais du réglementaire, et si vous voulez pas du réglementaire, je taxe ou je fais les deux en même temps. Quelle politique va oser faire ça, hein ? Donc, il est beaucoup plus logique pour un politique, dans une démocratie, de dire on vous accompagne et on travaille ensemble pour le changement.
Voilà, juste financer les bonnes volontés, ça ne suffit visiblement pas à réduire les pesticides. Et comme nous sommes entrés en période présidentielle, ben vous comprenez que ça ne va pas changer tout de suite.
Ouais, c'est sur cette analyse plutôt pessimiste qu'on va donc se quitter. Merci Anne-Laure Barral pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Mais surtout, restez avec nous. Secret d'info, ça continue dans quelques instants. On va parler de l'affaire LVMH, une affaire dans laquelle plusieurs anciens grands flics et un ex-magistrat ont été mis en examen.
You see, or can you follow me? Or do you read me? Have I begun this too weirdly? In the estuary, oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime.
Entêtant et surprenant d'ailleurs de la part de l'ex-enfant terrible de la Britpop, c'était The Fantasy Life of Poetry and Crime, une chanson de Pete Doherty, composée avec Frédéric Lau, guitariste notamment d'Alex Baupin et de Stéphane Escher.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Fabrice Arfi, en charge des enquêtes à Mediapart. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va évoquer l'affaire LVMH. C'est une affaire sur laquelle vous travaillez depuis longtemps et qui vient de connaître une cascade de mises en examen, on va le voir. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même dans cette enquête, c'est qu'elle a deux volets. Un qui concerne son concurrent direct, le groupe Hermès, et un autre qui concerne le député de la France Insoumise, François Ruffin. Alors, je vous propose de prendre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que le groupe de luxe Hermès reproche d'abord à LVMH?
En fait, Hermès reprochait à LVMH d'avoir opéré sur les marchés financiers une sorte de OPA qui ne disait pas sur son nom pour racheter une partie du capital d'Hermès grâce à des sociétés implantées dans les paradis fiscaux qui, en fait, étaient des chevaux de Troie de Monsieur Arnault et du groupe LVMH. C'est potentiellement, je dis bien potentiellement, un acte illégal du point de vue de la réglementation financière.
Parce qu'on avance masqué.
Parce qu'on avance
masqué. Parce que ces sociétés sont des sociétés qui n'ont pas d'existence légale.
Un peu les deux en fait. C'est-à-dire que c'était le véhicule d'une OPA hostile et déguisée. Et il y a des règles sur les marchés financiers. Et donc Hermès avait déposé une plainte au pénal en plus de poursuites plus réglementaires qui avaient été faites auprès de l'autorité des marchés financiers contre LVMH. Et manifestement, cette plainte à l'état-major de LVMH suscitait beaucoup d'inquiétudes, au point de mobiliser un certain nombre de personnes, dont l'ancien chef des services secrets intérieurs de Nicolas Sarkozy, le bien connu Bernard Squarcini, qui a été le patron de la DGSI, la Direction Générale
des
Services Intérieurs, et qui a mobilisé tout son carnet d'adresses, et même un peu plus, pour au bénéfice de LVMH, obtenir des informations sur le contenu de l'enquête policière et judiciaire en cours et d'après plusieurs juges d'instruction de manière illégale.
Alors parlons justement du profil de ceux qui vont donner ou qui sont susceptibles d'avoir donné, puisque pour l'instant il y a une présomption d'innocence, des informations sur le dossier LVMH. Alors on a des noms assez surprenants. Vous évoquiez effectivement celui de Bernard Squarcini, mais on a Christian Flesch aussi. On a Pierre Liotot. Christian Flesch, c'était l'ancien patron de la PJ de Paris. Pierre Liotot, il était au moment des faits adjoint au coordinateur national du renseignement de l'Élysée. Donc on mobilise tout un réseau dont certains de hauts fonctionnaires qui sont toujours actifs, qui sont toujours en poste.
En fait, c'est un peu, il faut bien le dire, sidérant. On est quand même confronté à un ersatz d'État dans l'État au profit d'intérêts privés, en l'occurrence de la société d'un milliardaire, multimilliardaire, Monsieur Bernard Arnault, où la question du bien commun et s'effrite sur celle des intérêts privés.
C'est comme si Bernard Arnault, LVMH, ouais, hein, avec tous les guillemets possibles, avait infiltré un certain nombre de services de l'État.
C'est pas comme si, c'est exactement cela, et on peut le dire de manière strictement factuelle, puisque des écoutes judiciaires qui ont été menées par la justice et par la police le documentent. C'est-à-dire qu'on entend dans ces écoutes l'ancien numéro 2, qui était une sorte de numéro 1 bis, en fait, hein, de LVMH, Monsieur Godet, qui est décédé depuis, et évidemment, paix à son âme, mais qui, dans les écoutes, dit à Monsieur Squarcini combien il veut des informations sur le contenu des enquêtes en cours. Et pour cela, Monsieur Squarcini, qui a passé des décennies dans les couloirs de la République, et parfois c'est qu'elle a de plus secret, mobilise qui? Le patron de la police judiciaire parisienne. Vous avez cité son nom, pardon, Monsieur Flesch, qui est mis en examen aujourd'hui dans le dossier, donc présumé innocent, qui l'adjoint du monsieur renseignement de l'Élysée sous François Hollande, ou qui des magistrats susceptibles d'avoir eux aussi des informations sur le contenu des enquêtes. Et des écoutes téléphoniques ou des SMS qui ont ont été retrouvés montrent qu'on donnait de l'information à LVMH alors qu'on est soi-même fonctionnaire tenu à un devoir de réserve, de secret et d'efficacité sur les enquêtes en cours.
On a même l'ex-patron de l'Office central de répression du banditisme qui apparaît dans ce dossier. Alors ça, c'est, j'allais dire, côté haut fonctionnaire, hein, côté ex-flic, magistrat, etc. Et puis, il y a côté LVMH. Et là, il y a un autre personnage qui apparaît, c'est le patron de la sécurité de LVMH, qui lui aussi se trouve être un ancien magistrat.
Alors là, c'est même assez intéressant parce que quand il est surpris par des interceptions téléphoniques opérées par la justice, il est encore en fonction à la Cour d'appel de Paris, il est haut magistrat avec une empreinte un peu politique, si j'ose dire, dans sa carrière.
Il a un parcours dans les cabinets.
Voilà, il a fait beaucoup, c'est évidemment son droit, mais il a fait beaucoup de cabinets ministériels pendant le quinquennat Sarkozy, trois, notamment celui de Monsieur Guéant au ministère de l'Intérieur, et cet homme qui s'appelle Laurent Marcadier, alors qu'il est encore haut magistrat à la Cour d'appel de Paris, mais dont on sait qu'il s'apprête à quitter la magistrature pour aller à LVMH, est suspecté d'avoir utiliser son réseau, d'avoir obtenu des informations au profit de LVMH sur l'enquête Hermès. Et d'ailleurs, des écoutes de M. Squarcini montrent que celui qu'on appelle le Squal disait d'ailleurs que bah oui, sur le dossier LVMH, celui qui était chargé de ramener,
de collecter
l'info en secret, c'était lui, M. Marcadier.
Et quand je parlais tout à l'heure de cascade de mise en examen, il a été, Laurent Marcadier, mis en examen 9 fois.
Voilà, il a écopé de 9 chefs de mise en examen. M. Squarcini en a 16. Donc on est dans un dossier où les mises en examen pleuvent. Ça ne veut évidemment pas dire que ces personnes sont coupables, mais ça veut dire qu'ils sont suspects.
Et il nie. On va préciser qu'il nie.
Alors, il nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Et il va, dit-il, attaquer les mises en examen devant la chambre de l'instruction, qui est l'organe judiciaire de contrôle d'une instruction, pour essayer de faire tomber ce qui lui est aujourd'hui reproché. Ça fait partie, évidemment, des droits de la défense.
Alors, on va évoquer quand même le deuxième volet de cette affaire, même si, dans le principe, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'obtenir des informations, voire d'espionner. Il concerne donc François Ruffin. On est en 2015. Il n'est pas encore député. Il s'occupe du journal Fakir, dont on sait que c'est le poil à gratter de LVMH. Et puis, on se souvient de ce film Merci Patron, dans lequel effectivement il monte une espèce de farce, mais en même temps réelle, contre le PDG de LVMH. Alors lui aussi aurait été placé sous surveillance, et on aurait même placé des taupes auprès de lui.
Alors là, c'est un peu extravagant et même, comment dire, un peu cocasse, si ce n'était quand même aussi grave. Cocasse parce qu'on a... d'un côté, vous l'avez dit, le futur député François Ruffin, mais qui est journaliste, qui dirige un journal que certains disent militant, Fakir, dans la région d'Amiens, qui est un petit journal. Il se balade avec des t-shirts « I love Bernard », ils font un peu d'agit-prop devant les magasins Dior ou autres. Enfin, voilà. Et ça, c'est vécu comme une espèce de menace quasi existentielle pour LVMH, voire Bernard Arnault, au point de voir l'ancien chef des services secrets de Monsieur Sarkozy, donc Bernard Squarcini, mobiliser tout son réseau policier de renseignement, y compris à l'étranger, en Belgique, en France, avec où il va chercher des infos auprès de gens de la DGSI, à l'Élysée, pour avoir des informations sur ce qu'ils appellent le groupe Fakir, comme si on parlait d'Action Directe ou de je ne sais qui. Et en effet, et c'est demandé par LVMH, les écoutes, ça le démontre, d'infiltrer Fakir. C'est dit tel quel, il faut qu'on les infiltre. Et en effet, grâce à des sous-traitants, Monsieur Squarcini va pouvoir infiltrer, grâce à au moins 2 taupes qui ont été identifiées, le groupe Fakir. Alors, c'est là où c'est pas simplement cocasse, pour avoir des informations sur ce qu'il préparait, mais également des informations qui, d'après l'enquête judiciaire, relèvent de la vie privée. Et puis, in fine, pourra obtenir des informations sur ce film qui fait si peur à Bernard Arnault, qui est Merci Patron, et qui va d'ailleurs avoir un César du meilleur documentaire.
Oui, qui a eu beaucoup de succès. Alors, dernière question, est-ce que, jusque-là, on a évoqué son nom en filigrane, mais est-ce que cette affaire peut remonter jusqu'à Bernard Arnault?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je suis évidemment pas magistrat et arbitre des élégances pénales. Le fait est que ce à quoi on assiste quand on plonge les mains dans ce dossier, c'est que c'est quand même très cloisonné au sein de LVMH. À ce stade, Bernard Arnault a été entendu par les policiers, mais comme témoin. Et je ne peux pas dire, évidemment, quel sera le sort pénal de M. Arnault dans cette histoire.
Bon, bah, à suivre. Merci, Fabrice Arfi. Alors, la suite et la fin donc, de cette affaire. J'imagine on continuera à la suivre, notamment dans Mediapart, puisque je précise que Mediapart peut d'ailleurs se consulter par abonnement. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Humbert. C'est Jean-Baptiste Libert qui a choisi la musique et à la technique. Il y avait Laurent Baudouin et Elisabeth Collet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.